Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ce léger retard. Vous êtes sur 48FM pour un nouvel épisode des Voix du Silence, votre émission qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas assez dans les médias. Cette semaine, c'est le Studio Bus, une semaine où les étudiants de Master en Journalisme de l'Université de Liège s'organisent comme une rédaction. Vous avez pu découvrir tout plein de produits médiatiques tout au long de la semaine. Et là, pour terminer sur du talent, sur de la beauté, de l'intelligence, bien sûr, vous avez votre émission préférée qui va vous apporter des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, que du beau monde. Manon, comment est-ce que tu vas dans cette belle semaine du Studio Bus?
Bah là, ça va très bien, je suis même pas fatiguée. Donc, nickel.
Ça, c'est bizarre, ça. T'es sûre que t'étais là?
Parce que je me suis bien reposée hier soir.
Oh, la chance, la chance. Et tu vas nous parler de quoi tantôt? Fais-nous un petit teaser de ta chronique.
Alors, je vais dire opéra et santé mentale. Et ça sera aussi avec Simon, le sujet.
D'accord, merci. J'aimerais juste entendre votre sujet commun, du coup. Et toi, Simon, comment est-ce que ça va?
Moi, contrairement à Manon, je suis hyper fatiguée. Voilà.
Voilà une réaction plus normale.
J'ai encore plein de travail à faire aujourd'hui, mais voilà, je prends un petit peu de temps pour les Voix du Silence, parce que c'est quand même une chouette émission, j'ai entendu dire.
Ah oui, moi aussi j'ai entendu dire, mais je ne sais pas plus, je suis par qui par contre. Et Adrien, l'homme à la voix de velours, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour attaquer notre belle émission malgré un planning chargé?
Ah bah pour attaquer l'émission, ça c'est sûr, je suis toujours OP, mais Manon, à mon avis, t'es une extraterrestre parce que tout le monde est claqué ici à part toi, je ne comprends pas comment tu tiens. Mais bon voilà, on est en pleine forme pour les Voix du Silence, ça rebooste.
Bah oui, bien sûr. Et aussi Audrey, aujourd'hui, oui. Tu es prête à faire une émission de folie avec nous ou quoi?
Oui, je pense que pour nous tous, c'est un petit peu notre pause aujourd'hui. On fait l'émission qu'on préfère, donc c'est plutôt cool. On en profite pour un peu souffler et parler un peu avec les auditeurs.
Ouais, et prendre du bon temps, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'accueillir en plateau un cercle étudiant qui est lié à UNICEF. Nous accueillons aujourd'hui comme invité Aurélie Caron, qui est la présidente, mais aussi Mike Lemaître, qui est le trésorier du cercle. Est-ce que vous allez bien tous les deux?
Super, on est content d'être ici avec vous et de découvrir un monde qu'on ne connaît pas du tout. Et contrairement à Manon, et ben nous on est crevés, même si on n'a pas fait une semaine de Studio Bus. Donc voilà.
Mais seulement merci. Que Manon, je suis la seule à être en forme.
Et toi Mike, tu vas bien?
Moi ça va très bien.
Ouais, cool, donc comme tu as dit, première apparition derrière un micro alors?
Bah derrière un micro non, on a eu la chance de s'essayer une conférence hier, donc on a bien tenir un micro, mais dans ce contexte-ci, ouais, c'est la première fois.
Et c'était aussi pour le cercle?
Oui.
D'accord.
Avec Amnesty International Liège aussi en collaboration.
On en parle aussi dans cette émission. On a décidé aussi de faire un petit reportage sur eux parce qu'on les trouve aussi très cool. C'était sur quoi la conférence?
C'était sur la fast fashion, la vie cachée de nos vêtements.
Mmh. Ah. Trop cool, méga cool, super. J'espère que c'était intéressant et que des auditeurs ont été écoutés du coup cette magnifique conférence. On vous posera quelques questions dans la suite de l'émission. Mais tout de suite, on va commencer du coup cette belle émission avec une dernière présentation. Tu croyais que je t'avais oublié? Que nenni! À la régie aujourd'hui, on a Florine. Comment est-ce que ça va?
Ça va et toi? J'espérais rester cachée, mais non.
Non, j'ai essayé. Exprès, ne te tracasse pas, je ne t'ai pas oublié. Et donc, on va commencer notre émission avec Manon et Simon qui vont nous parler d'un projet qui rassemble le monde de l'opéra et celui du handicap mental ici à Liège, le projet du CJL. Déjà pour comprendre, c'est quoi précisément le CJL en fait, Simon?
Le CJL, c'est le Centre de jour d'intégration et d'épanouissement liégeois. Le centre qui existe depuis 1977 et qui accueille principalement des personnes atteintes de la maladie de Down ou des autistes. Ils ont entre 18 et 60, voire même 65 ans, et c'est un centre de jour, donc ils ne dorment pas sur place. Le soir, ils rentrent chez eux en famille ou en hébergement, et du lundi au vendredi, ils ont plein d'activités, des sorties en ville, de la photographie, aller dans un parc d'attractions et plein d'autres choses. C'est vraiment très très varié.
Et l'une de ces activités qui nous a beaucoup intrigués avec Simon, c'est le projet Opéra. On a souvent l'image de l'opéra très élitiste, désuet, voire même fermé. Et détrompez-vous, ce sont plus des préjugés. Depuis 14 ans, le CJL collabore avec l'Opéra Royal de Wallonie. Chaque année, des personnes atteintes de maladies mentales font de la figuration dans différents spectacles de l'opéra. Pour ce sujet, j'ai pu rencontrer Raphaël Sanscaro, le chef éducateur du CJL, et aussi deux anciennes personnes qui ont fait de la figuration grâce au projet Opéra. C'est Alicia qui a 27 ans et Frédéric 47 ans. Elles sont toutes les deux atteintes d'une déficience mentale légère et on écoutera leur ressenti de cette incroyable expérience tout au long du sujet.
Ah, moi, j'ai vraiment hâte de les entendre, mais alors comment est-ce qu'elles sont sélectionnées en fait ?
Bah, à l'époque, c'était l'ancien directeur d'opéra, Stefano Manzoni, qui est malheureusement mort depuis, qui venait dans leurs locaux pour faire passer un casting pour ses prochains opéras. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de compétences à avoir, il n'y en a même aucune. Pas besoin de savoir jouer à la comédie ou chanter, c'est uniquement de la figuration en fait. Donc, la sélection se fait principalement sur le physique. Par exemple, s'il faut une fille, un garçon, deux filles, deux garçons, une personne grande ou de petite taille.
Et ensuite, il y a bien sûr toute une organisation à mettre en place. Donc le CGL reçoit le programme avec toutes les dates, les heures pour les habillages et les costumes. Mais ce n'est pas le seul rôle des éducateurs. Il doit transmettre aussi des informations sur les figurants à l'équipe. Des liens forcément qui se créent entre les acteurs, chanteurs et figurants de l'opéra et qu'affectionnent particulièrement les figurants comme Alicia et Frédéric.
Oui, on parle avec tout le monde. Ils sont gentils. Ils sont très gentils, tout le monde.
Voilà, à l'Opéra Liège, on avait des costumiers, des perruquiers, des habilleuses, des maquilleuses, des techniciens. C'était vraiment un vrai spectacle, quoi, avec des machines, des techniques. C'était vraiment magnifique. Je me suis bien amusée. On était un peu comme une famille. Et le metteur en scène, Mazzoni, il s'appelait Mazzoni, c'était un père pour moi. Il était incroyablement doux. Gentil, compréhensif, il me comprenait. Quand j'allais pas bien, il trouvait un moyen de me faire rire, de me remonter le moral. Mais il me manque maintenant.
Alors, pour bien se préparer pour une pièce d'opéra, même pour un figurant, il faut bien sûr répéter. Hein, les répétitions, elles sont longues, elles s'étalent sur un mois. Les horaires peuvent être de 14 jusqu'à 19, voire même 22 heures. Et ensuite viennent les représentations qui durent une semaine ou un week-end. C'est un vrai marathon qui demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas Alicia et Frédéric qui diront le contraire.
Oui, j'aime bien même si c'est fatigant et qu'on loupe les activités. Oui, parce que des fois c'est l'après-midi, des fois c'est le matin. Et on vient nous chercher. Et de 14, Adrien vient nous chercher et on va là-bas.
Mais c'était fatigant. Parce qu'on rentrait des fois à 1h du matin et le lendemain, il fallait qu'on aille jouer, on était vidés. Mais malgré ça, on essayait de tenir le coup, mais des fois, c'est pas facile, des fois. Parce qu'on était fatigués, on n'avait pas de force assez, et voilà.
On vient d'entendre du coup à deux reprises les anciennes figurantes et j'ai une question qui est peut-être un peu touchy parce qu'elle parle justement de à quel point c'est difficile et fatigant. Est-ce qu'elles sont payées ?
Alors c'est une des questions que j'ai posées à Raphaël, l'éducateur en chef, car on ne sait jamais. Peut-être que sur des belles promesses d'inclusion, il y a cette envie perverse de faire des bénéfices et d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Mais rassurez-vous, rien de tout ça. Ils sont payés au même tarif qu'un autre figurant de l'opéra. L'objectif principal de ce projet opéra, c'est bien évidemment l'inclusion dans toutes ses formes jusqu'à l'aspect financier.
Et j'aimerais aussi rajouter que l'inclusion apporte énormément de choses. Pour le projet opéra, ce n'est pas juste faire de la figuration, ça apporte aussi beaucoup de compétences, d'évolution pour ces personnes en situation de handicap. D'ailleurs, l'éducateur nous le racontait.
C'est très valorisant pour eux. Ça travaille énormément l'estime de soi et même parfois tout ce qui est compétences communicationnelles. Ils doivent discuter avec les techniciens, ils doivent discuter avec le metteur en scène, avec les acteurs. Ça permet de travailler aussi l'autonomie. Ils doivent s'habiller aussi parfois. Enfin, ils sont aidés, mais voilà, tout ce qui est tenue vestimentaire, ils doivent être propres aussi. Donc, ça travaille énormément de choses, l'opéra. C'est pas que être sur scène et de faire de la figuration. Il y a tout un travail et des objectifs qui sont autour et on voit, oui évidemment, une progression, une évolution chez certaines personnes de pouvoir s'exprimer en public, d'être face à plusieurs personnes, ça travaille énormément le corporel. Donc oui, on voit une évolution là-dedans chez nos personnes, oui.
Et pour toutes les personnes qui souffrent d'handicap et qui n'osent pas sauter le pas du spectacle, de l'opéra ou de l'art, je laisse Alicia et Frédéric nous donner leur point de vue.
Je dirais qu'elle doit essayer de se relaxer, de ne pas s'énerver et d'écouter le metteur en scène parce que je suis certaine que cette personne-là aura toutes les compétences pour réussir le rôle qu'on va lui demander dans l'opéra. Moi, j'ai mis du temps à travailler avec Mazzoni, mais c'est grâce au CGL qui m'ont... je me dis, j'ai vu un jour dans mon horoscope chinois que j'allais faire de l'opéra. Et puis le lendemain, on m'a engagé. C'est quand même une coïncidence. Mais je dirais aux gens de ne pas s'énerver, de bien s'amuser à l'opéra, de rire, de rigoler, fou rire. À l'opéra, c'est fait pour ça.
Tout le monde peut arriver à tout. Il faut s'amuser, c'est tout. Et on s'en fout des gens qui se moquent des gens. On peut pas se moquer, mais ils se moqueront quand même. Et on s'en fout.
Et ben c'est sur ce message magnifique que je vous dis merci, du coup, Manon et Simon, pour cette chronique qui ouvre quand même pas mal autant le cerveau que les possibilités. Personnellement, je trouve ça absolument génial. Vous en pensez quoi, les autres autour du plateau ?
Franchement, c'est incroyable, je trouve. Moi, j'ai vraiment été touché par ce reportage. J'ai juste envie de voir ce que ça donne, ouais, en vrai. Parce que là, on a le son, mais j'aimerais bien voir l'image aussi.
Surtout la fin, c'était un beau message qui finalement elle a délivré cette personne un peu à tout le monde. Hein.
Mais tu vois que la confiance vient aussi de l'activité qu'elle fait, quoi. Tu vois, se produire sur scène devant tellement de gens quand t'as un handicap, ça doit être tellement
Je pense que ça peut t'aider à avancer même.
Glow up.
Ouais, comme a dit Audrey, elle a tellement raison, quoi, en fait.
Vous pouvez retrouver les sujets des Voix du Silence juste après Ciaran du groupe Eosine, un groupe liégeois de rock alternatif qui vient de sortir leur dernier EP aujourd'hui et qui s'appelle Coraline.
Thank you.
Et rebonjour, vous êtes toujours sur 48FM et vous écoutez les Voix du Silence. On vient d'écouter Ciaran du groupe Eosine, la chronique de Manon et Simon sur l'alliance entre la culture et le handicap à travers un atelier opéra. C'était la chronique juste avant. Mais toi, Adrien, tu as été voir un autre type d'atelier que tu vas nous présenter aujourd'hui, paraît-il. Des ateliers pour s'intégrer à la société belge. Alors, est-ce que c'est aussi négatif que ça sonne ou est-ce que c'est justement une surprise ?
Alors, pour contextualiser un petit peu les choses, il y a un mois, j'ai voulu réaliser un reportage sur les cours d'ASPA, c'est-à-dire dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en gros, c'est des cours de français pour les jeunes étrangers qui débarquent en Belgique. Je me suis donc rendu à l'école S2J, ici à Liège, et j'ai pu assister à des cours et à des ateliers. Parce que oui, comme tu l'as dit, le but ultime, c'est que ces jeunes soient parfaitement intégrés à notre société occidentale. Ça va donc au-delà de la seule maîtrise de la langue française. Ils ont donc des ateliers d'hygiène, des cours sur la démocratie, etc.
Des ateliers d'hygiène ?
Eh oui, parce que certains jeunes viennent de pays avec des coutumes très différentes et parfois, bah, ça passe par l'hygiène. Donc on leur apprend l'importance de se laver les mains ou de se laver tout court, par exemple.
Ok, donc tu as pu rencontrer qui du coup là-bas ?
Alors à S2J, j'ai rencontré des profs passionnés et surtout des jeunes franchement hyper motivés et déterminés à apprendre le français et à s'intégrer parfaitement. Parmi eux, il y avait notamment Imram, un jeune Afghan de 17 ans qui est à S2J depuis 2 ans et qui est spontanément venu vers moi pour me parler.
Et première année, quand je suis venu à l'école S2J, je dormais tous les jours. Je suis pas très loin. Lui, c'est avec nous. Je dormais tous les jours. Mais cette année, je dis non, un peu comprendre ça. Cette année, je travaille tout le temps.
Bon, vous l'avez compris, la première année a été un peu compliquée pour Imram, mais maintenant, il est motivé, puissance 1000. Sauf que lors de mon dernier jour avec eux, bah, je croise Imram, justement, qui sort de l'école alors que j'y entrais. Bon, soit, la journée se passe, et à la fin, il y a Madame Piet, une de leurs coordinatrices, qui vient me trouver, les larmes au bord des yeux. Et là, elle m'explique qu'Imram, bah, il est parti. Il a quitté la Belgique.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Bah, c'est à ce moment-là qu'on rejoint l'autre coordinatrice, Madame Boulanger, et elles m'ont expliqué que les jeunes avaient des tests à passer pour obtenir des papiers et que, bah, malgré tous les efforts fournis, beaucoup sont jugés pas assez intégrés pour obtenir l'autorisation de rester.
Je pense que c'est une partie de l'iceberg, ouais. C'est le test d'occidentalité, mais il y a aussi tout leur passé, tout leur parcours. Et c'est malheureusement là qu'ils sont souvent piégés, dans le sens où c'est vraiment des questions très très pointues, très très poussées.
Donc, au lieu d'être renvoyés dans leur pays d'origine, ils préfèrent partir d'eux-mêmes vers d'autres pays. Mais d'après les observations des coordinatrices, ce genre de situation touche particulièrement certaines nationalités.
Et est-ce que tu as su savoir pourquoi certaines nationalités et pas d'autres en fait ?
Alors, il n'y a aucune explication officielle. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on s'éloigne géographiquement, et moins il y a de chances d'obtenir un retour positif.
Ça touche certaines nationalités, oui. Nous, pour l'instant, c'est principalement les Afghans. Non, c'est la même procédure pour tout le monde. Mais en tout cas, le retour pour les Afghans est négatif dans tous les cas. On n'a pas eu un retour positif pour un Afghan pour le moment depuis 3 ans.
Depuis la création.
On n'a pas un qui a eu une procédure positive.
C'est systématique avec les Afghans, quoi.
Ouais. Ouais.
Chez nous, en tout cas, oui.
Une situation insupportable pour l'école, comme on peut l'entendre. L'école qui voit aussi une véritable volonté d'intégration chez les jeunes et qui se désole que de telles décisions soient prises pour certains de ses élèves.
Donc c'est carrément l'école qui tente de faire des recours en fait, mais c'est qui prend les décisions du coup ?
Alors ce sont les services à l'immigration. Après, bah, voilà, on est quand même en Belgique, il y a toujours possibilité de se plaindre et l'école a d'ailleurs tenté à maintes reprises de faire des recours.
Axé sur certains, en fonction des gamins, sur certains points. Bah, ici, dans le dernier courrier qu'on a fait, c'était axé sur vraiment son adaptation à notre société occidentale, ses relations avec les filles. C'est un gamin qui...
À tout point de vue, il a plus que rempli
sa part de contrat.
Il s'est intégré à tout et malheureusement, à nouveau, ben, on lui dit c'est ton deuxième avis négatif et t'as plus beaucoup de possibilités pour obtenir tes papiers. Ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire en tout cas, mais il y a d'autres choses qui devraient se mettre en place.
Bon, ben, comme il n'y a rien à redire, ben, les jeunes ils préfèrent tout simplement quitter la Belgique plutôt que d'être renvoyés dans leur pays d'origine.
Mais tu penses pas un peu qu'elles ont été sages en te répondant, mais qu'en fait ils vont juste possiblement vivre dans l'illégalité en Belgique ici. La situation des sans-papiers ici à Liège continue de s'empirer, autant de leur acceptation qui devient de plus en plus compliquée et inatteignable comme on vient de le voir, mais aussi au niveau de la situation de vie qui souvent régresse lorsqu'ils rentrent dans l'illégalité quoi. Moi, j'ai des amis qui ont fait de l'accueil chez eux. Ça a l'air très difficile d'avoir de la place pour accueillir tout le monde. On manque de lieux cruellement et la situation a l'air un peu impossible à démêler, quoi.
Alors, il y a peut-être, même certainement, des jeunes qui vont prendre la voie ici de se cacher et vivre dans l'illégalité chez nous. Mais d'après les coordinatrices, qu'elles m'ont expliqué, c'est que y a beaucoup de jeunes quand même qui partent, ils sautent dans un train. Et en général, c'est beaucoup l'Angleterre. Et Madame Piette, par exemple, elle m'avait dit « J'espère qu'il ne va pas aller en Angleterre parce que... Bah, » En Angleterre, il y a des contrôles, aux douanes, c'est hyper surveillé. Et là, quand ils se font choper, c'est retour à la casa et ça ne discute pas, quoi. Ah ouais. Donc ici, apparemment, notre fameux Imran, il aurait parlé de la Suisse. Et il est parti avec quelques potes, d'ailleurs. Et ils ont bien sauté dans le train au Guimain, quoi.
OK.
Mais en tout cas, c'est toujours une décision qui est très difficile à prendre pour eux parce que c'est un peu une deuxième famille qu'ils doivent quitter à nouveau, à qui ils doivent encore faire leurs adieux.
Il quitte, comme il dit, sa deuxième famille. Ouais, c'est comme ça qu'il nous appelait. Mmh. Pas que nous, les enseignants. Hein. C'était aussi l'école, de manière générale, ses potes. Il quitte la deuxième famille. Il faut redémarrer autre chose ailleurs. Avec ici, peut-être, on peut juste se dire qu'on lui a apporté une langue supplémentaire. Mmh. La maîtrise de la langue française. Et donc là, on sait que s'il part dans un pays francophone, il aura déjà cet avantage-là de pouvoir communiquer.
Je préfère donc conclure cette chronique avec ces paroles qui, selon moi, résument bien... les liens forts qui se créent entre les jeunes et avec le corps enseignant, mais qui témoignent surtout du dévouement de ces jeunes, de leur investissement et de leur détermination à l'intégration, dont ils ne seront finalement pas récompensés.
Eh bien, merci Adrien d'avoir mis cette histoire en lumière. Ça me rend particulièrement triste, en fait. Gros soutien aux sans-papiers et aux associations qui sont en fait sur le terrain, typiquement l'école. En fait, je m'attendais à voir vraiment hein, des profs et des encadreurs beaucoup plus méchants que les extraits que tu nous as présentés. Je les trouve étonnamment soutenants avec les migrants alors qu'ils sont dépassés eux-mêmes par la situation.
Ah quoi, mais les profs, oui, les profs, ils soutiennent à fond. Comme je t'ai dit, les profs, ils sont hyper passionnés. Ils voient des jeunes qui débarquent à l'école avec une envie d'apprendre et tout. Ils sont hyper reconnaissants. Enfin, j'ai pu parler avec des professeurs dans le cadre de mon reportage précédent. Où ils disaient, on arrive dans la cour, c'est un grand sourire, bonjour madame, comment vous allez aujourd'hui? Ils n'ont pas ça avec des petits Belges qui vont à un cours de français lambda, quoi. Il y a vraiment une reconnaissance, un investissement qu'ils ne retrouvent pas dans des classes plus traditionnelles.
Moi, je comprends, mais après, ils doivent être encore plus dégoûtés, Imram et ses potes. Enfin, je comprends la motivation de se barrer aussi, quoi, après autant de travail investi, 2 ans qu'il était là et qu'on l'a refusé, quoi.
Mm-hmm.
2 ans de cours, et c'est quoi la fréquence des cours?
La fréquence des cours, ils ont cours tous les jours. Donc
Comme à
l'école normale, parce que le but ultime, c'est l'intégration. L'intégration, c'est l'intégration à la société. Donc sortir, faire la fête, tout ce que nous, en tant que jeunes, on peut faire. Mais c'est aussi l'intégration dans des classes ordinaires. Mm-hmm. Donc c'est avoir des cours de maths comme les autres, avoir des cours de sciences comme les autres. Et pour ça, il faut maîtriser le français. Il faut aussi maîtriser un peu les comportements et les coutumes occidentales.
Ce refus est d'autant plus frustrant, quoi. Ça doit résonner comme un échec de la part des professeurs.
C'est vraiment ça.
C'est vraiment horrible.
C'est une frustration,
parce que
en fait.
C'est pas du tout une fin en soi. Et quand tu te bats pendant aussi longtemps, même pour eux, c'est presque au final l'échec de ton but pendant si longtemps, quoi.
Mais c'est vraiment, comme tu as dit, c'est une frustration parce qu'ils se donnent à fond. Enfin, c'est Madame Boulanger, je pense, qu'il a dit ici. Ils remplissent clairement leur part du contrat. Et les autorités, eux, remplissent pas la leur, quoi.
Ouais. Et c'est à ça aussi que sert notre émission. Je trouve ça chouette qu'on puisse aussi, justement, diffuser ce genre de message. C'est aussi le but de notre émission radio et je tiens aussi à le préciser.
Ouais, j'espère qu'en tout cas, il sera entendu par les bonnes personnes parce que ça doit tellement être frustrant de leur part. Et vous, madame et monsieur de chez UNICEF, l'accueil des sans-papiers, est-ce que c'est un combat d'UNICEF, du coup, ici en Belgique pour l'instant ?
Alors, peut-être pour UNICEF. En tout cas, nous, à notre niveau, en tant que cercle étudiant, pas tellement. Honnêtement, on est sur des actions plus à notre portée. Mais j'imagine que ça doit faire partie, si pas de leur combat, en tout cas des plaidoyers qu'ils écrivent et qu'ils destinent aux plus hautes instances, sans doute.
Peut-être un jour, qui sait ?
Qui sait ?
Peut-être un jour. On le souhaite.
En tout cas, j'espère. Mais c'est parfait qu'on commence ces discussions. On va pouvoir la continuer juste après la musique d'Adrien, qui est « Comment ne pas te louer » de Ibarra. On se regarde autour de moi, je m'en ai. Et nous revoilà sur les voies du silence. On vient d'écouter Comment ne pas te louer. Et j'avais déjà entendu cette chanson, mais j'avais jamais vu le titre. Je tiens à le dire quand même, ça m'a fait rire de redécouvrir cette chanson une deuxième fois.
Personnellement, pour ma défense, je ne connaissais ni le titre ni la chanson. Je pose ça là.
En tout cas, très agréable chanson qui pue le soleil à plein nez. Alors, clairement. Comme nous revoilà du coup sur les voies du silence sur 48 FM, on va tout de suite commencer l'interview de Aurélie, la présidente, et Mike, le trésorier du cercle UNICEF ici à Liège. Alors déjà, rebonjour.
Rebonjour.
Et je vais vous poser comme première question, comment et pourquoi une organisation comme UNICEF a-t-elle créé un cercle étudiant en fait?
Non, je pense qu'Aurélie, tu peux répondre, madame. Okay. Madame le président.
La présidente prend la parole. Non, alors, je pense que la volonté derrière tout ça, pour UNICEF en tout cas, était de redonner un peu la place aux jeunes, essayer de redynamiser tout ça et surtout toucher un public dans notre tranche d'âge, un public de jeunes, les sensibiliser aux missions d'UNICEF, au but de la défense des droits de l'enfant, etc. Et puis, on s'adresse surtout aux parents de demain, donc ça prend tout son sens quand on se dit qu'on va sensibiliser des gens qui, peut-être dans 5-10 ans, auront des enfants, et surtout les impliquer dans le volontariat dès maintenant, parce que c'est une image, le volontariat en tout cas, une image un peu vieillotte. Et le fait de reprendre des jeunes dans tout ça et de les engager, ça redonne un peu de sens et une belle perspective d'avenir, en tout cas pour le volontariat, je pense.
Et c'était une initiative qui est lancée depuis chez UNICEF ou c'était une initiative justement de votre chef un peu étudiant et vous avez contacté UNICEF pour qu'ils vous soutiennent?
Alors là, c'est un peu flou parce que les prémices de ce cercle, ça s'est passé pendant le Covid et les personnes qui étaient là à ce moment-là n'ont pas directement eu accès aux activités, etc. Et elles sont parties et c'était elles qui étaient à l'initiative. Et j'avoue que je ne sais pas exactement si ça venait de l'université ou d'UNICEF. Je pense que c'est UNICEF qui a contacté des étudiants, ou en tout cas qui était déjà en contact avec des étudiants volontaires à l'université de Liège et que l'initiative est née d'une discussion entre eux.
Ok, ça va. Et quel est votre lien, du coup, alors, hiérarchique et financier avec UNICEF Belgique?
Alors, concernant le lien hiérarchique, il est à peu près... Il y a un lien hiérarchique, donc il y a quand même un petit contrôle d'UNICEF pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc, il y a normalement une interdiction autour du chocolat. Donc, le chocolat, c'est vraiment un produit qui a l'air d'être tout banal comme ça. On se dit plateforme, on vendrait bien du chocolat, mais en fait, à l'heure actuelle, malgré les certifications qui sont faites par les grosses industrielles, une grande partie de la production de fèves de cacao est issue du travail des enfants. Et donc on ne le voit pas, c'est vraiment très difficile à tracer. Donc UNICEF a dit interdiction totale du chocolat, donc voilà, on ne peut pas vendre.
Coup dur pour la Belgique, ça.
Voilà, coup dur pour la Belgique.
On n'en parle pas beaucoup en plus, ça.
Non,
ça.
Ouais, voilà, c'est un peu la même chose pour les diamants. On ne vend pas des diamants, mais pour les diamants, c'est un peu dur à tracer.
Ah ouais,
mais bon. Donc, mais vraiment.
C'est plus bizarre si vous vendiez des diamants.
UNICEF est certainement très riche à l'heure actuelle. Mais la même chose, on s'était aussi posé la question de vendre des roses, et en fait, on s'est rendu compte que de nouveau. Peut-être pas au niveau du travail des enfants alors, mais souvent les roses, ça demande beaucoup d'eau pour les produire. Et donc ça a des impacts environnementaux qui sont très importants. Et au niveau des enfants, les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les enfants qui vont devoir migrer quelque part.
Donc, est-ce qu'il y a des produits qui n'ont pas de conséquences ou,
Alors, je ne pense pas qu'il y ait
la
des produits...
La pomme de ton voisin, peut-être.
Peut-être. Mais voilà, je pense qu'il n'y a aucun produit qui n'a aucune conséquence. Mais évidemment, on essaye de limiter les conséquences que ça pourrait avoir. Et donc, par exemple, quand on a fait un événement crêpe à un moment, on reviendra peut-être dessus, on a essayé de privilégier des alternatives locales et plutôt durables pour tout ce qui était topping sur les crêpes. Par exemple, le Nutella, c'était hors de question. Le chocolat, de manière générale, comme l'a dit Mike, ça, c'était non. Donc, plutôt de la pâte de spéculoos ou des choses comme ça pour rester dans le bon belge.
Okay.
Trouver des alternatives, quoi.
C'est ça, voilà, ça demande de la créativité, vraiment.
Mais vous l'avez évoqué un petit peu, la mission principale d'UNICEF, c'est la protection des enfants. Mmh. Finalement, comment on retrouve cet idéal dans le cercle étudiant?
Comme l'a dit Mike, en faisant attention à ce qu'on vend, ce qu'on produit, et aussi dans nos messages, c'est-à-dire que toute notre activité elle est teintée par cette mission. Par exemple, on ne vend jamais d'alcool. On essaye de ne pas être associé à l'alcool, vu qu'on défend les droits des enfants. On essaye de ne pas être associé à tout ce milieu-là. Et puis même dans le cercle, on a beaucoup d'étudiants en droit, ce qui fait qu'on est quand même assez cohérent avec ce qu'on défend, et notamment des étudiants qui se destinent à une spécialisation en droit de l'enfant. Donc ça donne tout son sens au cercle et aux membres qui le composent, en tout cas.
Et vous parlez beaucoup de vente de trucs. Vous vendez pourquoi du coup?
Alors, c'est moi qui me suis trompée depuis tout ça par vulgarisation. En fait, on parle jamais de vente. On propose des choses en échange de dons, parce qu'on fixe jamais de prix, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent, mais pour vraiment ce qu'il en est et ce qu'on propose comme action. On a notamment des goodies qui existent déjà. On a des petits porte-clés avec des oursons qui sont super mignons, qui fonctionnent bien quand on essaye de collecter des dons. Et sinon, bah, quand on fait des activités, il arrive qu'on demande un don en échange. Effectivement, quand on a fait des crêpes au B31, donc dans la faculté de droit, on demandait une petite compensation financière. Et dans l'espoir de récolter plus que ce qu'on avait engrangé... engagés en tout cas en frais pour avoir, nous, après quelque chose à ramener à UNICEF et que ces dons-là servent bah, évidemment pour les droits de l'enfant.
Et d'ailleurs, le lien financier entre vous et UNICEF, c'est d'accord, là, votre action, vous la menez de cette façon-là. Et après, combien de l'argent est-ce que vous donnez à UNICEF? Combien est-ce qu'il vous réclame? Est-ce qu'il y a un lien un peu ambigu entre vous à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est juste vous donnez tout et eux, ils sont contents, ils disent merci, quoi?
Alors, à ce niveau-là, on essaie encore un peu de négocier avec UNICEF, parce que de nouveau, pour UNICEF, c'est très nouveau. Donc, ils n'ont pas toujours la présence d'esprit, mais ils ne se rendent pas toujours compte que voilà, on est étudiant, on n'a pas toujours la possibilité d'avancer tout, parce qu'on doit quand même vraiment payer des choses qui sont assez chères. C'est toujours, comme l'a dit Aurélie, des choses qui sont bio et durables. Donc, quand on doit prendre du sucre, de la farine et des œufs qui sont bio et durables, les prix doublent, voire triplent. Donc, on essaye de demander à pouvoir garder une sorte de petite caisse qui doit faire... quelques centaines d'euros, alors tout le reste sera bien sûr envoyé à UNICEF en toute transparence. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de collecter un maximum de dons pour UNICEF pour ensuite le renvoyer auprès de l'association.
Une question qui me vient du coup à l'esprit, c'est il fonctionne avec la confiance, alors avec le cercle étudiant?
Oui, beaucoup. Ouais. En fait, comme le disait Mike, c'est tout nouveau. Et donc, en plus, la responsable des volontaires, elle gère à la fois les volontaires, un projet d'animation, de sensibilisation dans les écoles et les deux cercles qui existent actuellement. On a celui de Liège et celui de Saint-Louis à Bruxelles. Et en fait... j'ai oublié où je voulais en venir, mais non, voilà, elle fonctionne sur la confiance, c'est ça, exactement. Parce que c'est tout nouveau pour elle aussi, elle n'a jamais été investie dans un cercle étudiant et donc elle n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Donc, en fait, il n'y a pas de lien hiérarchique à proprement parler, ni de lien financier, on fonctionne sur du « nous, on leur apprend comment fonctionne un cercle », eux, ils nous font confiance et ils essayent de remanier un petit peu leur fonctionnement et leur procédure en fonction de nous. Par exemple, là, on va avoir accès à des comptes bancaires sur lesquels on pourra garder l'argent qu'on récolte pour le réinvestir dans d'autres actions pour récolter toujours plus d'argent. On sait comment ça fonctionne normalement. Hein, pour engranger de l'argent, il en faut à la base. Et voilà, donc on peut faire bouger les choses, nous, à notre niveau. Et eux, ils essaient de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ils se renseignent auprès d'autres cercles étudiants aussi. Donc oui, c'est plus de la collaboration que vraiment une hiérarchie stricte.
D'accord. Et est-ce que vous voyez, du coup, ce cercle étudiant comme un passe-temps à l'université, ou est-ce que vous êtes investi dans la cause extramuros?
Je sais pas si tu veux donner ton avis, je donnerai le mien après.
Bah, je pense que c'est un mélange un peu des deux. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour la cause et que ça c'est pas un passe-temps, bah ça va un peu devenir mon travail, donc alors faudrait peut-être mieux que je sois volontaire. Là, c'est un peu des deux, parce que il y a vraiment ce côté sensibilisation, on va vraiment récolter des dons, on fait des choses qui mettent parfois de temps. Hier, on a fait une conférence, moi je suis rentré chez moi à 1h du matin, j'étais debout depuis je ne sais pas quelle heure, donc ça m'a vraiment pris toute ma journée. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce côté vraiment passe-temps, on va s'amuser, on va vraiment rester des étudiants, donc il y a toujours un peu ce côté un peu plus chill, on est entre nous, il n'y a pas ce cadrage avec peut-être quelqu'un qui serait plus âgé, qui ne prendrait pas nos délires, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un mélange très, très fin des deux, passe-temps travail.
Ouais, entre guillemets, ouais, je suis assez d'accord avec Mike. Bah, déjà, on est un cercle d'étudiants, donc ça nous arrive de faire des activités juste entre nous, au-delà du cercle. Donc ça, c'est déjà super sympa, on rencontre des gens d'horizons différents des nôtres. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait pendant les heures. Comme je disais, bah, le truc qu'on a fait dans la faculté de droit, forcément, ça c'est pendant les heures d'école, mais ça nous arrive aussi de participer à des actions, comme on est allé sensibiliser aux ardentes, on participe au salon du volontariat, parfois on fait des animations pendant les vacances scolaires et les week-ends. Donc ça, sont des choses qui dépassent un peu le contexte scolaire et qui font qu'on est aussi bien engagé par passion que vraiment dans la cause UNICEF et aussi pendant les heures de cours.
D'ailleurs, du coup, vous parliez de membres, des membres au final de votre organisation. Il y a beaucoup de personnes de droit, il y a aussi d'autres facultés.
Alors, moi, par exemple, je suis en psychologie, donc assez différent. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui est en sciences de l'éducation, en sciences, c'était motricité, j'oublie tout le temps, mais en tout cas, elle fait des études... dans ce domaine-là, dans la faculté de médecine. On en a d'autres qui sont plutôt du côté de la médecine vétérinaire. Je pense qu'on a aussi quelqu'un qui a HEC. On a un peu de tout, oui, et on se destine à être toujours aussi interfacultaire, raison pour laquelle on recrute des membres de tous horizons aussi.
Ok, donc votre but, c'est quand même aussi d'impliquer les jeunes, les étudiants, qui sont en Wallonie, même en Belgique, hein, même pour Bruxelles, à la cause.
C'est ça, exactement. Okay. Oui, ben, je pense qu'UNICEF, exactement, et je pense qu'UNICEF a même pour volonté d'ouvrir d'autres cercles. Donc voilà, et quand on parle des jeunes, dans notre cercle, on avait quelqu'un qui a repris des études ici récemment, qui vient d'un autre pays et qui a repris un master complémentaire ici en Belgique, qui a la trentaine. Donc vraiment, on est ouvert à tout le monde et justement, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un peu les expériences de tout le monde qui se mêlent et c'est vraiment chouette.
Et quand on voit tout ce que fait justement le cercle, comment vous voyez le futur des ONG finalement ?
Je ne sais pas si tu te lances. Moi, j'ai une idée précise pour ça, en
tout cas. Je te laisse répondre comme ça. Je réfléchis deux secondes à la question.
Ok, j'y vais. Moi, je trouve que ça a un avenir plutôt positif. Et de manière générale, le volontariat, dans son sens le plus large. Ici, en mars, on a participé au salon du volontariat de Liège pour UNICEF, justement, avec deux autres membres du cercle. Et on a fait le constat avec les autres participants, les autres exposants, donc les autres associations en soi, que le public rajeunit énormément. Généralement, quand on va au salon du volontariat, on s'attend à avoir beaucoup de retraités, pour être honnête, des gens qui ont énormément de temps à consacrer à une cause. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait carrément des écoles qui venaient avec leurs professeurs pour voir un petit peu dans quoi ils pourraient s'engager, dans quel projet ils pourraient un peu donner de leur temps avec l'école. Et donc, je pense que même les écoles commencent à inciter les jeunes à faire du volontariat. Et donc, je pense que ben voilà, ça, c'est bien parti pour continuer, en tout cas.
Voilà, si je peux. Pour ma part, ben, les ONG, pour répondre de la fin, peut-être un peu autrement la question, les ONG, c'est vraiment quelque chose qui a pignon sur rue ces temps-ci. On avait hier une conférence sur la fast fashion, et j'ai découvert une ONG qui s'occupait d'améliorer les conditions de travail, par exemple, dans les usines du Bangladesh et des choses comme ça, et ça se faisait depuis la Belgique et tout. On a vu l'ONG Terre on pensait que c'était juste les
cabines de ramassage,
les bulles à vêtements, et en fait, on a découvert qu'il y avait des milliers de... Enfin, il y avait combien ?
Je ne sais plus exactement, mais...
Bah, plusieurs centaines de personnes, plusieurs en tout cas, qui travaillaient pour Terre, et je trouvais ça incroyable. Et je pense qu'à l'heure actuelle, partout où l'État est carencé, les ONG apportent justement une vraie force de soutien là où l'État n'intervient plus, que ce soit ici en Belgique ou à l'étranger.
Je suis assez d'accord avec toi, ce qui est en fait un peu dommage et triste quand y penses, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
De base, il n'est pas censé avoir des carences dans ce genre de choses, que des gens souvent dans le système du volontariat, en plus de ça, sont obligés de combler. Vous, votre travail de sensibilisation et de récolte de fonds, vous le faites du coup de façon volontaire aussi.
C'est ça, oui.
Et c'est ça souvent le problème, c'est un investissement exagéré dans une cause au final très distante avec des problèmes à régler qui sont horribles. Enfin, moi je trouve que les ONG, en tout cas ce n'est que mon avis, les ONG sont comme tu dis pignon sur rue, mais c'est malheureusement beaucoup de travail pour une cause trop difficile à atteindre. Les enfants qui travaillent dans les usines, est-ce que UNICEF aide vraiment alors des gens sur la cause? Là vous aidez plus une cause de sensibilisation pour, comme tu dis, les futurs parents, et je trouve que là est l'importance, en tout cas, moi, de votre cercle, j'en suis très content qu'il existe. Mais pour terminer, quelle question est-ce que vous auriez aimé qu'on vous pose ?
Ben, je trouve que vous avez bien couvert le sujet, mais si je peux juste me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a souvent l'image d'UNICEF qui aide beaucoup à l'étranger. Il faut savoir que nous, dans notre cas, on a aussi beaucoup d'actions en Belgique, notamment via les plaidoyers, on essaye de faire bouger les choses, que ce soit au niveau vraiment politique belge, mais aussi plus haut. Je dis « on » parce que ben, voilà, forcément, on se sent investi. On est aussi volontaire UNICEF, au-delà d'être juste membre d'un cercle. Mais donc, on a aussi des actions en Belgique. Et comme Mike citait le groupe Terre, en fait, on a aussi l'impression que c'est uniquement du volontariat. Mais quand il disait, il y a plusieurs centaines de travailleurs. Donc, d'un côté, c'est vrai que c'est super triste que ce soit bah, les ONG qui doivent aller là où l'État est carencé. D'un autre côté, ça a donné du travail à des gens. Et eux, ils ont la volonté que ce soit aussi quelque chose de... Je ne sais plus comment ils l'expliquaient, mais vraiment un travail qui a du sens, où ils sont rémunérés à leur juste valeur. Et c'est pour ça que voilà, ça leur prend un peu plus de temps à se développer, parce que justement, ils essaient de contrer cet effet de on prend des gens, que ce soit en intérim ou quoi, là, ils leur donnent un travail qui a du sens, rémunéré à leur juste valeur, dans des conditions de travail correctes. Mais sinon, pour revenir à ta question, moi, je trouve que vous avez bien fait votre taf, hein, j'ai rien à dire. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses.
Je veux juste rebondir sur ce que tu disais deux secondes. En fait, UNICEF en Belgique fait du lobbying auprès donc, des partis, du gouvernement et tout, pour vraiment tenter d'améliorer les conditions de l'enfant en Belgique. Donc, faut pas croire que si on fait un don à UNICEF, ça va partir dans des pays du tiers-monde. Pas du tout. Ça, une partie partira, c'est sûr, mais une grosse partie des dons qui sont reçus par UNICEF sont réinvestis en Belgique pour faire du lobbying, pour aider les enfants en Belgique qui en ont besoin, parce que malheureusement, on pense être un pays riche, mais...
Il y a des enfants tristes partout
et la paupérisation de la Belgique augmente chaque jour, malheureusement. Donc UNICEF agit vraiment en Belgique. Quoi.
Localement, en effet.
Oui, localement.
D'accord, bah merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je trouve que vous avez été très clair et sympathique aussi. En tout cas, moi je trouve... Est-ce que vous avez encore des questions peut-être, mes chroniqueurs, chroniqueuses adorées?
Comme tu as dit, moi je trouve que tout est clair et... Non, je n'ai pas spécialement d'autres questions. Tout est clair et... Non, franchement, les actions et tout, ça donne un petit peu d'espoir après tout ce qu'on a entendu avant.
Personnellement, j'ai un petit peu mieux compris et je ne savais même pas, moi, personnellement, qu'il existait un cercle étudiant.
Ah non, pareil.
Que ce soit les auditeurs ou même moi en tant que chroniqueuse, bah, voilà, on aura appris quelque chose.
Super, bah merci beaucoup. Je vous retourne le compliment, vous êtes tous très sympathiques aussi.
merci
beaucoup.
Mais comme on est quand même des journalistes, même si on est sympathiques, on a été diversifier nos sources et se renseigner auprès d'un deuxième cercle étudiant lié à un organisme non gouvernemental. Audrey, t'as été nous faire un petit reportage cousu-main sur Amnesty International, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, vous en parliez justement, vous les avez rencontrés hier, bah, c'est parfait, on sera complet comme ça. J'ai réalisé un reportage avec Amnesty International qui, cette organisation-là aussi, a fondé un cercle étudiant qui est sur Liège et qui est aussi tout récent, je pense. Comme vous, vous avez été un petit peu fondé pendant le confinement, si je ne me trompe pas. Et bien, eux aussi, voilà. Eux aussi, ils sont arrivés en 2020, donc ils sont tout récents. Et j'ai un petit reportage pour qu'on écoute tout ça.
Eh ben, on va découvrir tout ça et discuter juste après le titre de Terence Parker qui s'appelle « My Forever ».
I don't wanna lose it, babe.
Et vous êtes de retour sur les Voix du Silence sur 48FM. On va reprendre tout de suite avec Audrey. Du coup, Audrey, Amnesty International. Pourquoi cette association ?
Déjà parce que c'est une organisation étudiante récente. Amnesty International, à la base, c'est une organisation mondiale, hein, faut savoir. Mm-hmm. Mais le cercle étudiant, justement, on en discutait pendant que la musique passait, c'est des cercles étudiants. On se rend compte qu'ils ont été créés il n'y a pas très très longtemps. On ne sait pas si c'est le Covid qui a joué pour quelque chose, mais voilà, c'est un peu comme UNICEF, le cercle étudiant a été créé en 2020. Amnesty International aussi. Et c'est quand même un combat pour la défense des droits de l'homme. C'est quand même un combat pour l'homme et au final, c'était fondamental, hein, je pense. Je pense que ça fait quand même partie des valeurs fondamentales qui ne sont même pas discutables. Donc je trouvais ça bien de le mettre en lumière aussi aujourd'hui et de diversifier un petit peu les cercles étudiants.
Je suis très d'accord avec toi. On va alors peut-être du coup passer à ce reportage que tu nous as concocté, l'écouter et après en discuter ensemble. Et puis ce sera tout doucement la fin de notre émission.
Amnesty International est une organisation mondiale de défense des droits de l'homme. Depuis 2020, des étudiants ont repris l'initiative. Estelle Deloun, présidente du cercle étudiant, nous en dit plus.
Le but est de défendre les droits de l'homme tant au sens large, enfin directement qu'indirectement. Puis, on a des réunions plusieurs fois l'année avec la section nationale. Il y a également tous les autres groupes étudiants, mais aussi les groupes régionaux qui sont invités à ces réunions-là.
Cette organisation aide dans différentes initiatives, notamment sur Liège, dans le cadre de l'université.
On participe également à différents événements. Nous, avec le groupe de l'Université de Liège, on essaye principalement d'organiser des conférences, des workshops, des journées pétitions sur les différents campus, ainsi que des journées à thème par rapport aux journées mondiales ou sur des sujets d'actualité bien précis.
Bénéfique pour l'organisation belge, mais aussi pour les étudiants, leur but, impliquer de plus en plus les jeunes à ce combat pour l'homme.
Il semblait important d'impliquer les jeunes dans la participation à la défense aux droits de l'homme et ça nous semblait vraiment être de belles valeurs aussi à inculquer aux jeunes et s'investir dans un tel cercle à l'université. Personnellement, ça m'a motivée dans mes études et dans mon implication dans la vie étudiante et c'est un peu le cas pour tous les étudiants du cercle.
Pour ceux et celles qui souhaitent rejoindre le groupe étudiant, la candidature est ouverte à tous, dans toutes les facultés confondues.
Donc peu importe, il n'y a pas besoin d'être étudiant en droit pour comprendre les combats d'Amnesty et pour arriver à les mener sur le campus. Donc tout le monde est le bienvenu.
Ce reportage se termine. Audrey, qu'est-ce que tu dirais que c'est la différence entre les combats d'Amnesty et les combats du coup de UNICEF ? Parce que moi... Les deux argumentaires se ressemblent assez. Je ne veux dénigrer absolument aucun des deux cercles associatifs. Mais pour moi, le discours se ressemble assez. Qu'est-ce que tu dirais comme réponse ?
Ils ne se battent pas pour la même cause. Je pense qu'ils se battent de la même manière, que les moyens des cercles étudiants sont vachement similaires, mais la cause est totalement différente. Donc c'est bien aussi, ils se diversifient dans les combats. Et malheureusement, c'est triste, mais il y a beaucoup de combats. Et d'un côté, c'est une bonne nouvelle, mais on se bat pour ces combats.
Assez d'accord avec toi. Et nous, et nos invités, est-ce que vous pensez, si on avait fait un reportage sur vous, ça aurait sonné à peu près de la même façon aussi, du coup ? Ou est-ce que vous auriez voulu le voir de façon différente ?
Non, je pense qu'on est assez d'accord. C'est pour ça qu'on collabore aussi. C'est le cercle dont on est le plus proche, le seul avec qui on est réellement en contact pour le moment, d'ailleurs, parce que c'est sûr que les droits de l'enfant sont aussi des droits humains. Donc, dans tous les cas, c'est juste un focus un peu plus précis sur une population, en tout cas, par rapport à ce qu'eux, ils font, mais... En effet, nos combats sont assez identiques.
Oui, d'ailleurs, la présidente, au final, du cercle étudiant le dit, et c'est un combat pour l'homme au sens large, de manières différentes. Donc, vous vous rejoignez un petit peu de manière plus éloignée et vous un peu plus ciblée, c'est vrai.
C'est ça.
Moi, j'ai quand même une petite question à vous poser. Les deux cercles qui viennent d'être créés sont deux cercles de fac uniquement au certificat presque.
J'espère
si je me trompe. Tu m'as dit médecine, psycho.
Et on a quelqu'un qui est en sciences sociales aussi.
Et HEC.
HEC, donc on est plutôt vers le centre-ville. Sciences sociales, je pense que c'est au 20 août, si je ne me trompe pas.
Sciences sociales, c'est au B31 aussi.
Ok,
c'est
j'avais l'impression. Et ben voilà,
donc il y a un mec en HEC, après ça reste quand même une... Je déteste utiliser cette terminologie, mais une haute faculté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation ? Pourquoi est-ce que dans ces deux cercles facultaires, vous êtes pratiquement que des facs scientifiques ou du haut ou du certilement, quoi ?
Ça, c'est une excellente question. Je pense que le fait qu'on soit énormément de membres qui sont en droit, c'est sûr qu'eux ramènent chaque fois du monde, donc ça prend de l'ampleur. Maintenant,
c'est les copains et les copines ça. Qui ramènent les copains et les copines.
Oui, c'est très familial comme cercle, ça, on est obligé de l'admettre.
C'est parce que, étonnamment, les cercles du Vatou enfin pas étonnamment du coup, historiquement plutôt, les cercles du Vatou sont beaucoup plus à gauche idéologiquement et donc ressembleraient plus à en fait des cercles qui s'allieraient avec des associations comme UNICEF ou Amnesty. Et là, c'est beaucoup plus des professions du certiment qui se ramènent là-dedans. Donc c'est un peu surprenant.
Après, peut-être que notre faculté n'est pas au courant non plus de ce qu'il se passe forcément. Parfois, la communication peut jouer beaucoup. Peut-être qu'après cette émission, bah, y aura peut-être plus de candidatures du côté du Vintou, qui sait.
Oui, si
hein.
C'est les copains et les copines qui
ou même
qui
de la haute école. Parce que dans Amnesty International, le cercle étudiant, ils ont aussi des personnes de la haute école. C'est pas forcément des universitaires qui sont en droit. D'ailleurs, elle le dit, hein, ils changent assez souvent. Il y a un peu de tout. Donc peut-être qui sait, c'est juste une question de communication.
Peut-être.
Si je peux me permettre, je pense qu'au-delà du clivage gauche-droite, en tant qu'étudiant en droit, on est quand même beaucoup sensibilisé aux droits humains. C'est quand même quelque chose de très important. Ça fait quand même partie un peu du cursus, quelque part. On a des droits, ils doivent être appliqués, et je pense que ça s'arrête là. Donc on a quelque part peut-être une plus grande sensibilisation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, on sait quels sont nos droits, on sait comment ça fonctionne. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là que situe la subtilité, outre le fait de vouloir aider peut-être certaines catégories de personnes ou pas. Je pense que
ouais, peut-être que vous êtes plus conditionné dans votre cursus.
C'est un point de ressemblance, justement.
C'est un point majeur, oui.
Qui pousse tout le monde à dire, enfin, à être d'accord, en fait.
Ouais.
Les droits humains.
Ah, ouais, voilà.
J'ai pas vu un seul cercle à l'UNIF qui dit « je suis contre les droits humains », mais vous les poussez vers l'avant. Et
ouais,
c'est clair que c'est rassembleur, en fait.
Oui, et je pense qu'au-delà de ça, les étudiants en droit ont plus d'opportunités pour parler d'un tel cercle. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de Julien, qui est étudiant dans la même faculté que Mike, c'est-à-dire en droit. Ils sont plus souvent amenés à parler de telles organisations comme UNICEF, Amnesty, et donc ça lance directement le débat, et alors certains peuvent dire « ah ben justement, je suis volontaire, on a un cercle, regardez ». Alors que je ne sais pas si, dans les facultés qui sont plus ici au Vintou, par exemple, on a une telle opportunité de lancer le débat sur ce sujet-là, en tout cas. Et c'est vrai qu'Audrey mettait le doigt sur quelque chose. En termes de communication, comme on est tous géographiquement situés au même endroit, on est plus visible là-bas, en effet. Et parfois, on devrait peut-être prendre le temps de descendre un petit peu. C'est prévu. Et
vous êtes là aujourd'hui.
C'est ça.
C'est déjà ça. Voilà. Le message est passé, en tout cas.
Super.
En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes pour ce partage. Aux autres chroniqueurs et chroniqueuses aussi qui ont partagé le temps de cette émission. Vous venez de passer une heure avec nous sur les Voix du silence, l'émission qui tente du coup de donner la parole à des sujets qui, pour nous, n'ont pas assez de temps médiatique, en fait. Mais, donc, je redis merci à mes chroniqueuses chroniqueurs. Merci à nos invités d'avoir été là, d'être venus. On vous laisse partir sur une magnifique musique de Camille Schneider, qui s'appelle Seul. Et je vous dis bonne journée à toutes et à tous. Salut!
On me dit d'arrêter mes conneries, comme si j'allais gâcher ma vie. C'est trop compliqué, moi je vais tout foutre en l'air. Une remarque à la seconde, on s'attend à ce que je réponde. Sans me la raconter, je sais ce que j'ai à faire. Ça fait du bien quand tu touches le fond. Le lendemain tu te lèves, t'es un peu moins con. C'est bon, je change d'avis. Franchement, il fallait s'y attendre.